Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 4h à Paris, 3h en temps universel.
Mathis Limano.
À la une, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Des éléments de l'AFC-M23 soutenus par le Rwanda signalés à Bukavu, l'aéroport de la capitale du Sud Kivu déjà passé sous leur contrôle. La première ministre congolaise était en Éthiopie au sommet de l'Union africaine. On est à Addis Abeba dans une poignée de secondes. La liberté d'opinion en Europe, selon J.D. Vance, menacée. Lors de la conférence sur la sécurité, le vice-président américain a dénoncé le musellement des partis d'extrême droite sur le vieux continent. En Pologne, deux Russes condamnés pour des activités de recrutement pour Wagner et puis top départ pour la Berlinale, on passe en revue des films en compétition en fin d'édition. L'Union africaine a réuni son conseil paix et sécurité hier, vendredi, à Addis Abeba, en Éthiopie. Un conseil consacré à la situation dans l'est de la RDC où les combats continuent et se concentrent désormais au sud Kivu. L'aéroport de Kavumu tombé et des combattants de l'AFC M23 aperçus à Bukavu. Le président Tshisekedi était représenté par sa première ministre au conseil et la rencontre s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu, Florence Maurice.
En l'absence de Félix Tshisekedi, il n'y a pas eu de face-à-face avec Paul Kagame, mais les échanges n'ont pas été moins vifs, c'était électrique, témoigne un participant. Il faut dire que ce conseil s'est ouvert alors même que l'AFC M23 réalisait une nouvelle percée dans le sud Kivu. Signe de la tension qui régnait, la conférence de presse prévue à l'issue a d'ailleurs été annulée en milieu de soirée. Plusieurs chefs d'État ont aussi quitté la rencontre un peu avant la fin, notamment le président Kagame et le médiateur angolais João Lourenço. Tous deux s'étaient déjà isolés pendant la réunion pour un long aparté. Parmi les questions litigieuses, celle des troupes rwandaises présentes sur le sol congolais. La RDC a une nouvelle fois plaidé pour que Kigali soit explicitement indexé et condamné pour son rôle dans le conflit. Plusieurs pays d'Afrique australe ont abondé en ce sens, dont le Zimbabwe, mais sans obtenir gain de cause. Le communiqué final devrait donc s'aligner sur les conclusions du sommet de Dar es Salaam sans aller plus loin. Appel à un cessez-le-feu, au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la reprise d'un dialogue direct entre toutes les parties, fusion des processus de Luanda et de Nairobi, sans mentionner le Rwanda. Florence Maurice, Addis Abeba, RFI.
Le Rwanda et ses velléités expansionnistes dénoncées par le président congolais. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, Félix Tshisekedi a évoqué la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combattants de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda continuent leur progression dans le sud Kivu. Suite aux derniers événements, le président Tshisekedi a justement écourté son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. La conférence de Munich sur la sécurité et cette intervention qui a surpris les Européens. Attendu sur le dossier ukrainien, le vice-président américain J.D. Vance a appelé l'Europe à renforcer ses capacités de défense pour permettre à Washington de se concentrer sur les menaces dans le reste du monde. Il a aussi exhorté les Européens à changer de cap face à l'immigration au lendemain de l'attaque à la voiture bélier à Munich par un suspect afghan demandeur d'asile. Et d'une manière plus générale et surprenante, J.D. Vance a critiqué un recul de la liberté d'expression en Europe et a aussi demandé de dialoguer avec ceux qui partagent d'autres opinions, allusion à peine voilée au parti d'extrême droite. J.D. Vance, vice-président des États-Unis.
La menace qui me préoccupe le plus par rapport à l'Europe, c'est une menace qui ne vient pas de la Russie, ni de la Chine, ni d'aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur de l'Europe, le recul de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis. Au Royaume-Uni et dans l'ensemble de l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Et je crois profondément qu'il n'y a pas de sécurité possible si vous craignez les voix, les opinions et les positions exprimées par votre propre peuple. Rejeter les gens, ignorer leurs préoccupations ou pire encore, fermer les médias, annuler des élections ou exclure les citoyens du processus politique ne protège rien, absolument rien. En réalité, c'est le moyen le plus sûr de détruire la démocratie. Et croyez-moi, je le dis avec humour, si la démocratie américaine a pu survivre à 10 ans de grondement de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk.
Le vice-président américain J.D. Vance est dans le sillage de sa prise de parole parole. Et à une semaine d'élections législatives en Allemagne, il a rencontré la chef de l'AFD, parti d'extrême droite positionné en deuxième place dans les sondages. La guerre en Ukraine passée quasiment au second plan, donc. Kiev aurait pourtant peu de chances de survivre sans Washington. Les mots de Volodymyr Zelensky lors d'une interview à la chaîne NBC en marge de la conférence. Une sorte d'ultime avertissement après l'onde de choc provoquée par l'appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les deux dirigeants qui ont prévu de se visiter dans leurs pays respectifs, mais aussi de se rencontrer en Arabie Saoudite. De quoi réjouir Riyad, qui se félicite de la tenue de ce sommet, indique le ministre saoudien des Affaires étrangères. Et puis, c'est ce samedi que trois nouveaux otages israéliens doivent être libérés de la bande de Gaza. En échange, Israël s'engage à relâcher 369 prisonniers palestiniens. Il s'agit du sixième échange de ce type entre Israël et le Hamas, en vertu du fragile accord de trêve en vigueur depuis le 19 janvier. Cet échange coïncide avec le début d'une tournée régionale pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio, tournée qui débute ce week-end en Israël, avec des entretiens prévus avec Benjamin Netanyahou.
RFI.
Il est 4h06 à Cracovie, en Pologne. Un tribunal de la ville vient de condamner deux ressortissants russes pour avoir tenté de recruter pour le compte du groupe paramilitaire Wagner. Une affaire qui vient s'ajouter aux tensions extrêmes entre la Pologne et la Russie, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine. À Varsovie, Adrien Sarla.
Un nouvel épisode de la guerre hybride menée par le Kremlin. Voilà comment la justice polonaise a qualifié les agissements des deux ressortissants russes, condamnés à 5 ans et demi de prison hier. En 2023, ils avaient été appréhendés alors qu'ils distribuaient des autocollants invitant à rejoindre la milice paramilitaire Wagner. Plus de 3000 stickers frappés du slogan « Nous sommes là, rejoignez-nous » accompagnés d'un QR code renvoyant directement vers le site internet du groupe. Malgré les preuves, les deux hommes ont tous les deux plaidé la bonne foi, assurant qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Également accusés d'espionner la Pologne pour le compte de la Russie, leur sort ravive les tensions entre Moscou et Varsovie, déjà au plus haut depuis le début de la guerre en Ukraine. Les tentatives de sabotage, de cyberattaque ou encore d'espionnage imputées à la Russie sur le sol polonais n'ont fait que se multiplier. Et à 3 mois des élections présidentielles, Varsovie est en état d'alerte maximale pour parer à de probables tentatives de déstabilisation dans les prochaines semaines. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
En France, le Premier ministre doit rencontrer ce samedi le collectif des victimes de Betaram, cet établissement scolaire du Sud-Ouest, au cœur d'un scandale de violence et d'agression sexuelle sur des élèves. Scandale qui éclabousse François Bayrou, accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des faits. François Bayrou était alors ministre de l'Éducation nationale lors des premiers signalements dans les années 90. Le pape François hospitalisé, il a été admis ce vendredi dans un hôpital de Rome. Le souverain pontife souffre d'une bronchite provoquant de fortes difficultés respiratoires. Malgré une légère fièvre, l'état de santé du pape est assez bon, assure le Vatican dans un communiqué. Et puis on part à Berlin avant de refermer ce journal. La capitale allemande où vient de s'ouvrir le 75e Festival international du film, 10 jours de fête du cinéma. Un jury présidé par l'américain Todd Haynes et 19 films qui concourent pour l'Ours d'Or, la plus haute récompense du festival. Alors qui pour succéder à Mati Diop, vainqueur l'an dernier avec Dahomey. Hier, vendredi, les premiers films de la compétition sont entrés en piste. Hot Milk de la Britannique Rebecca Lenkiewicz et Dreams du Mexicain Michel Franco. Elisabeth Lequerré.
Deux stars internationales, deux femmes puissantes sur le tapis rouge et à l'écran. Dans Dreams, Jessica Chastain est une riche héritière qui fait venir aux États-Unis son amant, un jeune danseur mexicain. Une fois l'oiseau en cage, elle devient de plus en plus possessive, dominatrice et jalouse, tandis que Dreams reconduit les rapports de domination nord-sud dans la sphère de l'intime et du sexe. Hot Milk transpose ses enjeux de pouvoir dans un trio féminin. Sophia. Sur la côte espagnole, en pleine canicule, Sophia, une jeune anglaise, s'ennuie et tente d'échapper à sa mère tyrannique. L'arrivée d'Ingrid, Vicky Cripps, une femme mystérieuse, lui fait entrevoir une porte de sortie. Ingrid est-elle une pure manipulatrice ou celle grâce à qui Sophia pourra enfin s'émanciper ? Au genre rebattu du récit d'apprentissage, Hot Milk apporte un imaginaire de contes et de légendes, à l'image de la méduse maléfique qui hante les nuits de la jeune fille. C'est la qualité principale de ce film qui parvient à unir dans un même tableau l'immuable et la fragilité de la jeunesse en devenir. Elisabeth Le Guéret, Berlin, RFI.
Le festival de cinéma, la Berlinale, c'est jusqu'au 23 février. RFI, il est 4h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.